Radio Orient, de Paris avec vous. إذن مستمعينا أنتم دائما في الاستماع لي سواء من باريس. وصلنا لفقرة ضيف الصباح، وكما قلت سابقا هذا الصباح معي في الاستوديو شابتين اختارتا أن تخوض تجربة استثنائية، فقد أمضتا 3 أشهر في جنوب شرقي تركيا، حيث بدأتا رحلتهما كمتطوعتين لتدريس اللغة الإنجليزية ضمن برنامج تابع للاتحاد الأوروبي، وسرعان ما تحولت هذه التجربة إلى مشروع وثائقي. لكن هذا الحوار اليوم سيكون باللغة الفرنسية. Donc aujourd'hui nous recevons deux jeunes qui ont choisi de vivre une expérience peu commune ou un peu différente pendant 3 mois et sont partis dans le sud-est de la Turquie. D'abord comme professeur d'anglais bénévole dans le cadre d'un programme de l'Union européenne, et puis ils étaient focalisés sur le projet documentaire à la rencontre des habitants, de leur histoire et de leur quotidien. Bonjour les filles.
Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir.
Donc aujourd'hui, j'ai Alice Moritz et Nesrin Cherifati dans le studio. Je vous laisse un peu, en quelques mots, vous présenter pour les auditeurs.
Alors, je m'appelle Alice Moritz, j'ai 25 ans. J'ai fait des études en sciences politiques et en journalisme. Et aujourd'hui, je suis journaliste.
Moi, je m'appelle Nesrin Cherifati. Je suis franco-algérienne. J'ai 24 ans et je suis juriste de formation.
Donc les filles, comment vous avez eu cette idée de partir dans le sud-est de la Turquie et pourquoi cette région plus précisément ?
Alors, on a fondé le média Nesali en janvier 2026 et comme première mission, on s'est dit qu'on allait partir dans le cadre d'un volontariat et la plupart des opportunités qu'on a trouvées à l'international étaient principalement en Turquie et on s'est on a fait des recherches en amont et on s'est intéressé plus particulièrement à la question kurde et c'est pourquoi on a décidé d'opter pour le sud-est de la Turquie afin d'approfondir ses recherches directement auprès des Kurdes.
Bah, je suppose que ça n'a pas vraiment été facile de partir de jeune fille dans une région un peu... Elle n'est pas très connue, pas très touristique. Donc, comment a été votre premier jour là-bas, sur place? Et est-ce que réellement vous avez senti que ce que vous avez imaginé avant et ce que vous avez trouvé, c'était identique
Alors nous, il faut savoir que le volontariat, du coup, qu'on a fait, était à Sirte. C'est une petite ville donc, dans le sud-est de la Turquie. Et c'est vraiment une ville où tu fais tout à pied finalement, enfin c'est vraiment, voilà. Et comme c'est une région peu médiatisée et peu connue, ben, honnêtement moi j'avais pas vraiment d'attente, je savais pas à quoi m'attendre, donc c'était plutôt, on était plutôt dans une démarche de découverte je pense.
Surtout en partant d'une grande ville comme Paris.
Ouais exactement, et c'était vraiment de la découverte et c'était génial vraiment ces premiers jours où... On était dans la rue principale et on allait un peu de magasin en magasin pour voir comment c'était. C'était vraiment chouette.
Pour découvrir. Et donc, à quel moment avez-vous décidé de commencer les documentaires? Vous avez décidé les documentaires avant de partir? Ou ouais. C'était au moment où vous avez commencé le volontariat, où vous avez rencontré les habitants? Peut-être vous avez dit, c'est le moment de faire autre chose qu'être professeur d'anglais et...
En fait, on avait cette idée avant de partir. Mais c'est vrai que avant de partir, on avait des sujets en tête, on a fait certaines recherches, mais une fois sur place, on s'est rendu compte en fait qu'on allait faire complètement autre chose parce que les sujets qu'on voulait faire n'étaient pas forcément en accord avec la réalité qu'on trouvait sur place. Mais oui, cette idée de documentaire et de reportage, elle a toujours été là dès le début du projet.
Donc là, ma question est à Nesrin, juriste de formation. Tu as trouvé ta passion pour le journalisme en Turquie ou c'était avant quand tu étais en France?
J'ai trouvé, en fait, c'est plutôt le côté juridique qui reste à travers les droits humains, en fait. Et axer le journalisme en montrant principalement les potentielles oppressions subies par certaines personnes. Ça m'intéresse très particulièrement pour pouvoir mettre en lumière tout ça et aller directement à la rencontre des personnes qui vont en fait nous partager toutes les expériences qu'elles ont. Et ce qu'elles subissent.
Donc revenons au documentaire, est-ce qu'il y avait vraiment des personnes qui vous ont marqué pendant ces 3 mois? Parce que 3 mois avec des gens, avec des inconnus, c'est sûr que vous aviez eu des gens que vous avez aimés plus, des gens que vous n'avez pas aimés. Du coup, il y a des gens qui vous ont marqué pendant cette période?
Oui. On a fait énormément de rencontres et je pense que c'était vraiment la partie la plus enrichissante de notre voyage, ça a été vraiment les rencontres. Moi, je pense surtout à Yacine, et Berivan, Yacine et Berivan. Enfin, on a rencontré Yacine grâce à un contact de Nesrine en France. Et en fait, il nous a énormément aidés dès le début. Et au bout de la deuxième rencontre, il nous dit « Ah les filles, mais en fait, je me marie dans 2 semaines, venez. »
Ah.
Ouais, du coup, il nous a invités à son mariage. Du coup, on a pu rencontrer sa femme, Berivan, qui était aussi super gentille. Yacine, c'est un professeur de littérature anglaise. Elle est artiste. Et pendant, en fait, un peu tout notre voyage, ils nous ont aidés, ils nous ont un peu accompagnés, etc. Mm-hmm. Et sinon, après une autre rencontre auquel j'ai envie de penser, c'est Jan. C'est un homme de 30 ans, ancien nomade. Et pareil, il nous a fait rencontrer toute sa famille parce qu'on a fait un sujet sur les nomades là-bas. Mmh, mmh. Et il nous a beaucoup aidés, il nous a beaucoup... il était drôle, enfin voilà.
Donc c'est une rencontre que vous n'oublierez jamais. Ouais, tu as d'autres rencontres, Nesrine,
en fait ? Aussi, à rebondir sur la mention de Yacine. Mmh. Par rapport au fait qu'en fait, c'était une des seules personnes qu'on a rencontrées qui parlait anglais. C'était vraiment un pilier pour nous parce que c'était... une personne avec qui on pouvait le mieux communiquer en direct sans devoir passer par un outil de traduction. Donc ça rendait les échanges un peu plus réels. Et après, je pense aussi à Rojhat, c'est un journaliste qu'on a rencontré à Diyarbakir et qui a vraiment... qui nous a permis du coup de rencontrer plein d'autres personnes qui étaient aptes à nous donner des interviews parce que avant de le rencontrer, c'était pas aussi simple d'avoir des personnes qui acceptaient.
Oui, et là, normalement, j'allais vous poser cette question pour parler des difficultés, parce que je sais que en partant de petits villages en l'est de la Turquie, comme je crois dans tous autres pays, dans des petits villages, les gens, en général, ils ne parlent pas trop d'autres langues, ils ne sont pas plus ouverts, parce qu'il n'y a pas beaucoup de touristes et tout. Donc, quelles sont les difficultés que vous avez eues en faisant ces documentaires?
Alors, la première difficulté, c'était la langue. C'est vrai que Nesrine et moi, on parle ni turc. Ni kurde, ni... Ouais. Donc c'était assez compliqué. Et en fait, en se rendant sur place, en fait, nous, on est vraiment... En fait, ce qui est drôle, c'est que nous, on est venus dans un cadre d'essayer d'apprendre aussi l'anglais aux gens. Ouais, c'est ça. Quand on a fait notre volontariat. Et c'est vrai que les gens là-bas ne parlent très peu anglais. C'était très rare de rencontrer des gens qui pouvaient parler anglais. Donc, en fait, le faire des interviews était... assez compliqué parce que même avoir accès à certaines personnes était compliqué parce qu'on ne parlait pas leur langue. Donc, ce qu'on a fait à chaque fois, c'est on utilisait le traducteur. Mmh. Heureusement, aujourd'hui, on a des traducteurs qui marchent très
la
bien.
La technologie, l'IA, ouais, ça a facilité en fait, la vie.
Je me suis dit, il y a 20 ans, on n'aurait pas pu faire ça. Tu vois, donc, c'était... donc, voilà. Et je pense que c'était le plus gros challenge. Après, il y a aussi des gens dans ces régions qui parlent que kurde. Dans ces cas-là, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de traduction kurde, par exemple. Enfin, il y en a à l'écrit sur Google Traduction, mais il n'y en a pas à l'oral, donc c'était plus compliqué.
Oui, souvent, dès qu'on traduisait quelque chose du kurde vers le français ou inversement, ils nous disaient qu'ils ne comprenaient pas trop. C'est mal traduit, quoi.
Exactement.
Donc c'était plus compliqué.
Donc je pense que c'était la
donc,
première.
Donc la première difficulté, c'est la langue.
Ouais.
Et vous avez eu d'autres difficultés? Par exemple, les gens, est-ce que ça a été facile d'accéder, enfin avoir accès aux gens, ou que les gens acceptent d'être filmés déjà de un? Vous êtes deux étrangères dans de petits villages là-bas, et du coup, est-ce que les gens ont accepté de vous parler premièrement et d'être filmés et de vous donner plus de détails, plus d'informations un peu?
Alors au début, c'est vrai que c'était très compliqué parce qu'à chaque fois qu'on mentionnait le fait qu'on aimerait bien faire des reportages et qu'on aimerait du coup, avoir des interviews, tout le monde disait « Ah, c'est cool ce que vous faites, je vais essayer de vous trouver quelqu'un. » Mais après,
mais jamais,
je ne proposais jamais. Et c'est pour ça justement que j'ai mentionné Rojhat, ce journaliste, parce qu'à partir du moment où on a rencontré des journalistes, en fait, ils nous ont vraiment permis d'accéder aux personnes qui étaient aptes à nous donner des interviews. Donc, ça a facilité notre recherche. Énormément, parce que directement, on allait vers les personnes, ils savaient déjà qu'on était dans une optique de les interviewer et ils étaient prêts à répondre à nos questions. Voilà.
Du coup, le problème, c'était juste de trouver une personne de confiance et un traducteur pour traduire avec les gens, mais à part ça, ils étaient vraiment prêts de vous parler.
Pas tout le monde, mais le fait que ce soit des journalistes, ils sont très en lien avec leur territoire et la société, et ils ont des contacts partout, et forcément... ils sont, vu qu'eux-mêmes doivent faire des interviews, ils sont en contact avec les personnes qui sont disposées à faire des interviews, en fait.
Oui, voilà,
alors
c'est ça.
Que...
en fait, c'est des personnes qui sont potentiellement déjà interviewées avant. Donc,
exactement.
Voilà. Et vous avez eu des anecdotes, moi ça je crois que c'est sûr que vous avez eu des anecdotes, comme vous avez eu des défis peut-être, vous n'avez pas d'anecdotes à me raconter ce matin.
Mais on a eu plein d'anecdotes, en vrai en fait on en a tellement, c'était enfin un jour une anecdote, mais je sais pas laquelle raconter.
Peut-être des moments difficiles.
Des moments difficiles,
Ça en fait, par exemple, on peut revenir sur le fait qu'on dormait beaucoup chez les gens. Tout le monde nous accueillait.
Donc du coup, pour le logement, vous êtes...
Oui, en fait, les gens étaient vraiment très reconnaissants du fait qu'on mette leur culture en avant. Et en fait, ils étaient vraiment... on était leurs invités pour eux. En fait, ils avaient les bras grands ouverts. Ils nous accueillaient chez eux pour dormir, nous faire à manger, etc. Et nous, nous-mêmes, on est très, très, très reconnaissantes envers eux. Mais pour eux, en fait, c'est eux qui nous doivent parce qu'on fait des interviews et qu'on met leur culture en avant.
Ouais, il y a une grande culture de l'accueil. L'invité est très bien traité, très... un peu mis sur un piédestal. Et c'était assez dingue de voir ça. Et on en est hyper reconnaissantes. Et je pense que tout ce travail n'aurait pas pu voir le jour si les gens, de leur côté, n'avaient pas été aussi généreux et gentils avec nous. Ouais, vraiment,
ça veut dire que vous avez bien mangé là-bas.
Oui.
C'est bien.
Ouais, là-bas, ils ont des cavalti, c'est genre des petits déjeuners avec...
des brunchs à la curte.
Ouais, mais des...
une dizaine, vingtaine d'assiettes, de petits trucs différents.
C'est trop bon, c'est génial. Et on s'assied tous par terre autour de la table et on mange.
Et ça ne vous manque pas, là, en France?
Si, un peu. Évidemment.
S'il y a un cavalti à Paris, on aimerait bien l'adresse.
Du coup, hier, vous avez fait votre exposition, c'est la première exposition. Vous avez mis des photos de tout votre voyage. Et ça s'est passé comment?
Alors, ça s'est très bien passé. Pour un premier événement, on est très fiers.
Très contentes. Il y a eu du monde, c'était chouette. On a pu aussi rencontrer les gens. En fait, nous, notre travail, il est surtout en ligne. Donc, on fait des vidéos publiées sur YouTube, puis des articles en complément publiés sur Substack. Mais du coup, avec cette expo, c'était un peu l'extension de ce travail-là. Et... le but, c'était vraiment de montrer les relations qui se créent en dehors, en dehors du journalisme et toutes ces relations en fait qui permettent ce travail de journaliste et de terrain, mais qui sont jamais médiatisées en fait, qui sont jamais mises en avant dans les rendus, dans un rendu final d'un média par exemple, et du coup de mettre en avant ces échanges, ces relations. Et tout le monde a adoré.
C'était vraiment le but de revenir sur les coulisses du journalisme de terrain. Et comme elle l'a mentionné, c'est des choses qu'on ne va pas forcément mettre en avant dans nos reportages. Par exemple, le fait qu'on ait été invité à un mariage, etc. Nous, ça nous a beaucoup marqué parce qu'on a passé un super moment. Ça nous a permis d'être proche de la famille du coup, de Yacine et Berivan. Et on a pu faire de très belles photos à ce mariage. Mais ça ne ressortira pas dans... les reportages, donc c'était l'occasion à travers cette exposition de partager ce magnifique moment.
Ces relations et tout qu'on a fait.
Donc vous avez mis les photos de Yacine et sa femme, vous avez mis les photos du mariage, vous avez dansé un peu dans le mariage.
Oui, évidemment, on n'avait pas le choix.
Vous avez appris à danser
Oui, le halaï.
D'accord, et vous avez eu des réactions des gens qui sont venus à l'exposition?
Oui, franchement, tout le monde... on n'a eu que des retours positifs.
Ouais, que des retours positifs. Il y a eu... ce qui nous a aussi... on était contentes parce qu'il y avait aussi des personnes extérieures à nos cercles qui sont venues. Du coup, ça a été génial de pouvoir les rencontrer, de pouvoir expliquer le projet, de faire en sorte que petit à petit, on s'expande.
De gagner en visibilité et de voir que ce n'est pas juste un média qui est suivi par nos amis, mais que ça atteint beaucoup plus de personnes. Donc, on se rend compte que notre travail, en fait, il compte pour les autres.
Du coup, vous avez appris quelque chose sur vous-même pendant ce voyage, parce que quand on sait tous, même si on voyage pendant une semaine, on part en nord, en sud de la France, on part en Espagne ou autre, ça change quelque chose en nous. Surtout quand on part avec une amie ou une collègue dans un pays un peu loin, dans de petits villages qui sont vraiment différents de là où vous venez, là où vous êtes né. Je crois que vous avez appris quelque chose sur vous-même.
Oui, c'est sûr. Ouais. Moi, je pense que j'ai appris à avoir plus de patience et à vraiment...
Lâcher prise.
Lâcher prise, je ne sais pas, mais me dire que les choses vont arriver, que, mais de pas tout vouloir tout de suite. En fait, le travail de journalisme de terrain, c'est vraiment un travail parfois qui se fait sur le temps long. Parfois, tu attends plusieurs jours pour enfin avoir l'interview qui va faire tout le documentaire, en fait. Et vraiment, ouais, avoir cette patience et essayer de pas baisser les bras pendant ce temps de latence, en fait. Moi, je pense que c'est ça que je retiens le plus.
Et Nesrine ?
Moi, je dirais aussi l'adaptabilité, parce qu'on a dû vraiment s'adapter à une culture qu'on ne connaissait pas du tout. Et aussi, comme Alice l'a mentionné, il y avait parfois des sujets qu'on voulait faire ou des personnes avec qu'on voulait interviewer, mais au final, ça ne se faisait pas. Et il fallait du coup savoir rebondir et faire en sorte du coup soit de modifier un peu le sujet ou de savoir l'abandonner et passer au suivant.
Et ça, c'est très important de savoir abandonner, parce que c'est très important. En général, nous, être humains, on sait pas vraiment comment faire pour abandonner. Mais si je vous demande de résumer cette aventure en trois mots, qu'est-ce que vous allez dire ?
Moi, je dirais premièrement surprenant. Mm-hmm. Ensuite, intense, parce que ça a été beaucoup de travail et tous les jours plein de rebondissements. Et finalement, enrichissant, parce qu'on a beaucoup appris, qu'on a... Enfin ouais, c'était enrichissant de faire toute cette expérience. Enfin, on en ressort grandi et on en ressort. On est aussi fiers de notre travail, donc voilà.
Et Nesrine ?
Alors moi, je dirais tout d'abord immersion, parce que on était en totale immersion dans cette culture. Aussi, je dirais traduction, parce que à part avec Alice, je parlais jamais français. Donc, enfin, à un moment, on s'est mis à apprendre.
Vous n'avez pas oublié français, j'espère.
Bah, ça va, on s'entraînait entre nous, mais on a pu du coup apprendre quelques mots de turc. Voilà, on s'est un peu se débrouillé. Parce que ouais, à la fin, on essayait d'abandonner le téléphone pour avec nos mots clés avoir un maximum de conversation. Et comme dernier mot, j'utiliserais découverte, parce que c'est la découverte pour moi aussi du métier de journaliste, vu que c'est la première fois que je pars en mission journalistique, et aussi découverte de paysages, de personnes, etc.
Et du coup, vous avez d'autres projets en tête ? Vous allez faire d'autres voyages ?
Oui. Notre prochain grand voyage et prochain reportage seront sur le Mexique. Mmh. Et on y va à partir de septembre, normalement.
Et pour le Mexique, pour faire quoi ? Vous avez une idée, un angle précis des documentaires que vous avez déjà pensé ? Vous avez déjà pensé au sujet précis, à l'angle ou pas encore ? Vous allez aller sur terrain et vous les allez voir ?
Alors, il y en a une idée de documentaire qui serait liée à un documentaire qu'on a commencé à faire en Turquie, qui est lié aux disparitions forcées. Mmh. Et on se rend compte que c'est un problème qui existe dans
partout,
mondialement, de pays du monde. Et on s'est dit que c'était une bonne idée de voir comment ce sujet était appréhendé du coup en Turquie, mais aussi au Mexique, pour voir un peu les différences, etc.
Et après, on a plein d'idées de sujets. Après, encore une fois, comme pour la Turquie, on avait plein d'idées de sujets. On est arrivé, on en a fait plein d'autres. Donc, je pense qu'on va aussi s'adapter au terrain. Mais aussi des sujets liés à la migration, droits humains en général, plein de choses.
Donc, merci les filles. Merci d'être venues aujourd'hui, de partager avec nous votre expérience. Et j'aimerais bien vous avoir dans le studio de Radio Orient quand vous revenez du Mexique avec d'autres reportages.
Merci pour l'accueil.
Oui, merci à vous.